www.processus.com. Du podcast Processus.
Hey, buddy!
Disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de balado. Voici Simon Snake Boisvert.
Hey, qu'est-ce que tu penses du congédiement de Jim Montgomery?
Ben, c'est sûr qu'on... T'sais, on n'est pas là, là pour savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est quand même peut-être un petit peu surprenant. T'sais, considérant qu'il y a à peine 2 ans, il a obtenu 135 points en saison régulière. Je sais qu'ils n'ont pas gagné en série, mais je trouve qu'on est très, très vite sur la gâchette pour congédier les entraîneurs dans le hockey. Puis, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie. Moi, j'aimais bien ce que Nashville faisait à l'époque. J'étais loin d'être un fan là, de l'équipe comme telle, là, de la façon qu'elle était construite par David Poile. Mais j'aimais le fait que Barry Trotz a été très longtemps entraîneur à Nashville et qu'on ne le remettait pas en question constamment après une série de défaites ou un mauvais début de saison ou une mauvaise performance en série. Tu sais, les Steelers de Pittsburgh font la même chose au football. Je crois qu'ils ont eu 3 entraîneurs en 60 ans. Et je trouve que c'est un carrousel un peu ridicule là, dans le hockey de toujours penser à congédier l'entraîneur.
Ouais, moi je pense que Don Sweeney disait ça va être soit lui ou moi.
Ouais, mais
il y en a plusieurs qui n'aiment pas la composition de cette équipe-là. Hein.
Ben moi je l'aime pas, mais il en demeure pas moins que ça a été efficace. Et puis un moment donné, c'est qu'il faut que tu décides comment tu vas renouveler tes effectifs lorsque tu as des retraites. Comme celle de Bergeron et Krejci, qui sont des éléments importants, bien, comment tu vas compenser? Est-ce que tu vas essayer de faire des échanges? Mais ça, c'est pas toujours facile. Mm-hmm. Signer des agents libres, c'est pas toujours efficient ni efficace. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas démantibuler ton équipe, puis tu vas te retrouver dans le,
ouais.
Dans le top 5 du repêchage pendant 5 ans. T'sais, ça non plus, c'est pas une formule qui est acceptable pour ouais. Tous les propriétaires.
Ouais.
Fait que là, tu te retrouves un peu dans un no man's land, puis je pense que Boston, en ce moment, est dans une période où ils sont pas assez mauvais pour aller chercher des choix de repêchage,
ouais.
Mais ils sont peut-être pas assez bons pour gagner la Coupe Stanley.
OK. C'est le segment Habs Radio dont on va parler des Canadiens. Anthony Desaulniers disait plus tôt ce matin, il avait vu que TSN avait classé les meilleurs espoirs et joueurs, banque de joueurs appartenant à l'organisation dont des prospects et des joueurs présents. 24 ans ou moins.
Ouais.
Le Canadien est numéro 1 sur la liste. Est-ce que tu es surpris de ça?
Je ne suis pas surpris qu'ils soient haut au classement. Cependant, moi, je ne les aurais pas mis numéro 1. Moi, je les avais numéro 3. Si j'avais fait l'exercice moi-même, je les avais numéro 3. Donc, ce n'est pas une grosse surprise là, qu'ils soient numéro 1, mais je trouve qu'on est allé un petit peu fort là, en le mettant numéro 1.
C'est quoi ça?
Je ne sais pas.
Ah, je ne sais pas. Il y avait un voix. Je suis très surpris de voir Anaheim numéro 7 sur ce liste-là. Moi,
ben,
Anaheim.
C'est
là,
ça que je m'en ai dit.
Mais moi, Anaheim, j'adore leurs joueurs et leurs prospects. Là. J'adore.
Ben oui, j'ai regardé hier soir le match contre Chicago. Puis, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de bons jeunes joueurs déjà dans l'équipe. Il y en a un autre qui s'en vient, Beckett Seneca. Personnellement, mon classement, ça a été San Jose 1, Anaheim 2, Canadien 3.
Oui. Oui, je pense que oui, ça a l'allure.
C'est bien, là, c'est bien, numéro 3, là, je les dénigre pas là, en disant ça, c'est juste que San Jose, quand c'est rendu que Quentin Musty est ton 6e meilleur espoir, ça veut dire que tu as toute une banque de jeunes joueurs.
Hey, en parlant de Quentin Musty, parce que je sais que tu l'as aimé beaucoup, 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 beaucoup.
Ah oui.
Il me semble qu'il y a eu 6 points l'autre jour, là.
Oui, mais, tu sais, j'ai toujours dit, moi, que la saison de 19 ans dans le junior... Je portais pas beaucoup attention à ça parce qu'à un moment donné, c'est normal que le joueur domine. Alors, c'est bien, mais Musty, là, j'ai vraiment hâte qu'il arrive dans la Ligue américaine. Et si le règlement était différent, il aurait joué dans la Ligue américaine cette année. Mais ça, c'est un autre sujet, là, mais je pense que ça s'en vient éventuellement.
OK. Le jeu des Canadiens dernier match, là, la victoire de 3-0, j'ai dit, puis je signe, puis je persiste. Pour moi, la meilleure victoire d'équipe de l'année à date, le meilleur match que Martin Saint-Louis a coaché. Est-ce que il y a des joueurs qui t'ont montré quelque chose dans ce match-là que tu n'avais peut-être pas vu avant. Par exemple, on a souvent entendu que ah, Caulfield, s'il ne marque pas, il n'amène pas beaucoup à l'équipe. Ouais. Mais l'autre match, l'autre jour, là, contre Edmonton, là, il n'a pas marqué Cole Caulfield, mais il a été l'architecte du but marqué par Caden Gooley, le deuxième but, puis a joué vraiment un bon match sur 200 pieds, Cole Caulfield.
Oui, tu as tout à fait raison. La question maintenant est de savoir s'il peut maintenir ça sur une saison de 82 matchs. Pas nécessairement tous les matchs, mais mettons plus souvent qu'autrement. Alors, oui, si on prend ça, si on isole le match de lundi, tu as tout à fait raison. Il a joué un très bon match sur 200 pieds. Peut-être que le style des Oilers aussi lui convenait. T'sais, pour lui, ça va être peut-être plus difficile lorsqu'une équipe joue série. Exemple, les Bruins de Boston. Mais Edmonton, avec un jeu ouvert et offensif, c'est probablement un adversaire idéal pour lui.
La victoire contre la façon dont les Oilers sont construits.
Oui.
Avec deux joueurs en tête. Là. Puis c'était tout un show hier soir, là, à Ottawa, là, le show McDavid hier. Là, c'est incroyable, là, ces trois points. Là. Ouais. Il a gagné le match là, presque à lui seul. Là. Mais, préfères-tu... T'sais, qu'est-ce que tu penses que comment les Oilers sont construits si tu les compares à comment les Canadiens sont construits?
Bon. Moi, voilà. Là. Je vais essayer de te le nuancer là, parce que c'est pas tout à fait blanc, pas tout à fait noir. C'est sûr qu'idéalement, tu veux avoir un McDavid dans ton équipe. La question est de savoir maintenant comment tu vas l'entourer. Les Oilers, malheureusement... Depuis que McDavid est là, et même avant l'arrivée de McDavid, mais on va prendre, mettons, depuis 9 ans, ils ont toujours eu de la difficulté à aller chercher des bons joueurs complémentaires. Dans le sens que, oui, ils vont avoir une vedette en Draisaitl, Brandon Nugent-Hopkins, moins cette année, mais en général, ça va être un joueur efficace. Ça, c'est sûr. Mais lorsqu'il vient le temps de boucher les trous pendant l'été ou à la date limite des transactions, c'est très rare qu'on fait des bons gestes. Exemple, là, ils avaient un bon jeune défenseur en Philippe Roberge l'année passée.
Oui.
Je sais qu'ils sont coincés par le plafond, mais il y avait quand même moyen d'égaler l'offre des Blues de Saint-Louis. On laisse aller Roberge. Tu sais, puis là, qu'est-ce qu'on va faire avec Evan Bouchard? Est-ce qu'on va lui donner 9 millions l'année prochaine quand il va devenir joueur autonome avec restriction? Evan Bouchard, je ne sais pas si tu as vu deux buts de Toronto contre Edmonton samedi.
Ouais.
Mais dans un des deux cas, il a complètement arrêté de patiner. Et dans l'autre cas, il a fait une passe molle dans sa zone. Evan Bouchard, ce n'est pas un défenseur de la Ligue nationale en dehors du jeu de puissance, mon avis. Et on va lui donner 9 millions. Alors ça enlève de l'argent pour être capable de signer des meilleurs joueurs complémentaires. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que finalement, oui, tu veux un McDavid, mais il faut que tu l'entoures mieux, puis je ne crois pas que l'argent soit nécessairement un obstacle à ça. Oui, il y a un plafond salarial, mais McDavid a 12,5 millions depuis quelques années. C'est une aubaine, considérant ce qui apporte à l'équipe.
Et Patrick Laine participe à l'entraînement des Canadiens avec ses coéquipiers, avec le chandail sans contact. Je viens juste de voir un tweet d'RDS, là. Puis il a l'air très à l'aise. Très à l'aise.
Ben, moi, je suis bien content. J'ai toujours été un grand fan de Laine. J'ai hâte de le revoir sur la glace. La question est de savoir qu'est-ce qu'il va apporter au CH. Est-ce qu'il va apporter peut-être, je ne sais pas, 2-3 victoires de plus là, au total à la fin de l'année. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va changer la dynamique du deuxième trio. Parce que là, tu sais, après Suzuki, Caulfield, Slavkovski, là, t'sais, ça a été mince qu'on a utilisé. T'sais, on a même eu Jake Evans à un moment donné sur le deuxième trio. On a des gars comme Kapanen qui ont joué sur le deuxième trio.
Mm-hmm.
C'était pas fort, là. Fait qu'en amenant un gars comme Laine, ben c'est sûr que tu viens d'armer ton deuxième trio de meilleure façon. Et aussi, tu améliores, d'après moi, ton avantage numérique.
Première vague pour lui?
Ben, peut-être pas au début, à son retour au jeu, mais dès qu'il va être en forme, oui. Je veux dire, le gars a un des meilleurs lancers de la Ligue nationale. Tu sais, c'est prouvé depuis qu'il est dans la Ligue, depuis 8 ans. Puis moi, ce qui m'intéresse de voir de Lainé, c'est qu'il lui reste 2 ans de contrat et il est encore jeune, il a 26 ans. Et ça va être très important pour le Canadien de définir si Lainé, c'est un gars que tu re-signes et que tu vas rentrer dans ton noyau actuel de Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Hudson, Demidov, Hage et compagnie. Ou est-ce que c'est un gars finalement que l'année prochaine, tu l'échanges et puis tu dis « OK, merci, on a essayé. Ça nous a donné un choix de deuxième ronde en bonnie, puis on passe à autre chose. »
Le fait que Hudson n'est pas encore en première vague, on sait que les coachs aiment, évidemment, écoute, Matheson, il fait l'avantage numérique des Canadiens va bien. J'ai parlé avec Pierre Maguire l'autre jour, Pierre était un de ceux-là qui dit aussi que Hudson doit être en première vague. Toi, tu mettrais qui en première vague?
Tu veux dire les 5 joueurs?
Oui.
Ben, Hudson, premièrement.
Oui.
Tu sais, Tony, je suis critique de certains aspects du jeu de Hudson.
Oui, mais c'est normal.
Je suis toujours pas convaincu que c'est un gars qui peut jouer 20-22 minutes par match. Mais une chose est sûre, c'est d'un gars qui devrait jouer les 2 minutes de l'avantage numérique tout le temps. Fait que si le Canadien a 5 avantages numériques de 2 minutes, il devrait jouer les 10 minutes. Bon, ça, c'est sûr. C'est vraiment, vraiment un atout.
Moi, je suis convaincu qu'il peut jouer 22 minutes. Là, on ne parle pas de 28, là. On parle de 22. 22, il peut les jouer.
À 5 contre 5, Tony, c'est 82 matchs. Moi je ne suis pas convaincu que le gars peut avoir les minutes d'un gars de première paire.
Non, mais attention, là, comme un jeune de 20 ans, là, on l'a vu l'année passée avec Leo Carlson, qui a joué peut-être 53 ou 55, oui. Je ne m'en souviens pas du numéro, mais c'était dans la cinquantaine. Ils ont fait ce qu'on appelle du load management avec lui, là. Si jamais Hudson frappe un mur parce qu'il n'est pas habitué de jouer 82 matchs, je comprends. Ils peuvent lui donner de congé de temps en temps. C'est correct. Ben, c'est pas fin du monde.
Il n'y aurait rien de mal là-dedans. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Il y a juste 19 matchs dans la saison, mais il n'y aurait rien de mal de faire ce qu'ils ont fait avec Leo Carlson l'année passée. Bon. Pour répondre à ta question, ben c'est sûr que tu mets Cole Caulfield sur l'avantage numérique, le premier avantage numérique. Tu mets Nick Suzuki. Alors, on est rendu à 3. La question après ça est de savoir, Juraj Slavkovski, c'est probablement mon 4e. Là, pour le 5e, je pense que, je ne sais pas si tu peux avoir nécessairement un gars attitré à temps plein comme 5e. Est-ce que tu es mieux avec un gars comme Gallagher pour prendre les retours de lancer? Est-ce que tu veux un gros joueur, mais peut-être moins talentueux? Est-ce que tu gardes Kirby Doc là? Ça n'a pas été vraiment productif à date. Alex Newhook, pas vraiment. Moi, je ne le vois pas là. Alors, je te dis que je pense que ça va être réglé l'année prochaine avec Demidov, de toute façon.
On va voir. Malheureusement, il est dans le doghouse là, avec son équipe là, dernièrement, mais on dit que c'est normal pour un jeune joueur. Mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'il joue, par exemple, qu'il fait quelque chose de bien, Demidov, dont on l'attend, évidemment, avec les bras ouverts. Dernière question, puis là, je te laisse. Ensuite, Montembeault, ses dernières performances, est-ce que c'est assez bon pour être dans le top 3 du Canada à la Coupe des 4 Nations? Ça a l'air que le Canada vont prendre la décision le 2 décembre, puis ils vont l'officialiser le 4 décembre. Ça s'en vient, là.
Bien, Montembeault a très mal commencé, mais on peut dire que depuis quelques matchs, il joue comme il jouait l'année passée. Alors, écoute, c'est très, très faible, le Canada, dans les buts. Écoute, tu peux le... Ouais, peut-être numéro 3 là, pour le moment. Écoute, ils vont probablement y aller avec le gardien de but le plus hot là, à ce moment-là. C'est possible. C'est possible. Je te dis pas non. Mais ça ne sera pas la force du Canada au prochain jeu, dans le tournoi, ça c'est sûr.
Merci Snake. On va se parler mercredi prochain, mon chum.
Salut Tony.
Ciao, ciao à toi.